Voilà, nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que nous sommes là et parce qu'il est là. Et nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de l'Exode. Donc l'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible, le livre l'Exode, et au chapitre 14. Donc nous allons voir justement la sortie de l'Égypte. Et le moment de la traversée de la mer Rouge. Donc Exode, chapitre 14. Si vous ne connaissez pas le récit jusque-là, hein, jusqu'au chapitre 14, les 10 plaies en Égypte et tout cela, je vous encourage, hein, si vous mettre au soleil cet après-midi, puis de lire tout cela et de voir le récit de comment les choses se sont passées. Mais là, nous arrivons à la fin de cette période où Pharaon se rend compte qu'il y a quand même plus puissant que lui et que le Dieu d'Israël est là et il faut en tenir compte. Ils sont arrivés au point où la nation d'Israël, parce que maintenant c'est une nation, quand Jacob est descendu avec tout ce qui lui appartenait, ils étaient à peu près 70 personnes. Là, c'est 430 ans plus tard, et il nous dit dans le texte qu'ils étaient à peu près 600 000 hommes en partant. Donc vous faites un calcul, 600 000 hommes, vous comptez autant de femmes, et puis vous ajoutez les enfants, et des familles, certainement des grandes familles, et vous arrivez certainement à près de plus d'un million, mais peut-être même on s'en rapproche du 2 millions. Hein. Donc c'est quand même ça représente du monde. Et ils étaient assez nombreux que lorsque nous lisons le début du livre, eh bien Pharaon commençait à se sentir menacé par eux. Hein, il dit, mais ils commencent à être plus nombreux que nous, et il faut qu'on soit sage dans notre comportement avec eux, il faut vraiment, parce que sinon un jour ils vont prendre le dessus. Donc, ce qui est certain, c'est qu'ils représentent une population assez importante. Et Pharaon, pour les contrôler, avait fait d'eux des esclaves. Et donc, c'est toute la main-d'œuvre d'Égypte hein, qui est là. Mais à la suite des 10 plaies, Pharaon les chasse. Il ne peut plus supporter parce que le pays va être détruit. Les récoltes ont été détruites, l'économie est détruite, tout est détruit et il les chasse. Et la dernière des 10 plaies était trop pour lui parce qu'il perd son premier-né. Et les Égyptiens, eux, sont tellement contents de les voir partir que même en partant, eh bien, il leur donne toutes sortes de cadeaux. Hein, les enfants d'Israël, en partant, ils disent, écoutez, vous n'avez pas quelque chose que je peux prendre, parce que c'est des esclaves qui n'ont pas grand-chose. Et alors, les gens leur donnent de l'or, de l'étoffe, de l'argent, des métaux. Bien sûr, tout cela, ça a servi à la construction du tabernacle dans le désert. Hein, donc, ça commençait quand même, ça représentait pas mal. Et on pourrait presque dire qu'ils les ont dépouillés. Mais, parce que Dieu rétablit la justice, on pourrait aussi considérer tout ce qu'ils ont donné, c'est comme leur salaire pour leur travail est gratuit. Hein. Et Dieu fait justice. Et alors, mais une fois qu'ils sont partis, et que peut-être que Pharaon a terminé d'enterrer son fils, et il y a des gens qui viennent et disent, oui, mais maintenant, et qui va faire le travail? Tu as laissé partir toute cette main-d'œuvre, mais maintenant, comment on va faire? Hein? Et alors, Pharaon, il se ressaisit et il décide de les rattraper. Donc, il rassemble une armée, son armée d'élite, près de 600 chars, et il y avait plusieurs hommes sur chaque char. Et ils vont à la poursuite de ce peuple qui partent avec, c'est les hommes, les femmes, les enfants, leur bétail, tout, hein, ça bouge pas très vite, mais ça fait du monde. Et alors, il les rattrape. Et les enfants d'Israël, après quelques jours, en train de contents de leur nouvelle liberté, tout d'un coup, ils voient venir les gardiens de prison. Hein. Et c'est la panique. Parce que non seulement est-ce qu'ils se trouvent sur les berges de la mer Rouge, et là, on ne peut pas traverser, et puis derrière eux, c'est l'armée de Pharaon. Donc c'est la panique. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une situation où vous étiez en panique. Hein, c'était fermé devant et c'est fermé derrière, et vous ressentez la menace. Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne vais pas vous demander de raconter. Hein. En général, on n'est pas fier de ce qu'on fait quand on est paniqué. Mais les enfants d'Israël, eh bien, ils sont là, et dans leur panique, il nous dit, et je lis donc à partir du verset 10. Alors, regardez avec moi, à partir du verset 10. Donc, Exode 14, verset 10. Et je vais lire jusqu'au verset 14. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la panique? Bon, ils ont crié à l'Éternel. C'est même presque une expression en France, et je pense que les gens ne pensent même pas à ce qu'ils disent, mais vous savez, dès qu'on se trouve dans une situation, oh mon Dieu, est-ce qu'ils appellent à Dieu vraiment ou pas? Bon, il y a des fois, il y a des gens qui se disent, ils disent je crois pas, mais bon, l'expression sort quand même. Et eux, ils ont crié à l'Éternel, mais bon, ils y croyaient pas trop. Hein, donc tout d'un coup, ils se mettent à dire à Moïse, ils disent, Moïse, regarde où tu nous as mis. Hein, la situation dans laquelle tu nous as mis. Si c'est mourir, autant mourir où on était. Mais ici, mourir dans le désert. Et ils lui disent, n'avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin pour ne mourir, mener mourir ici dans le désert? Il y a mieux que ça. Et puis, ils arrivent même à dire, qu'est-ce que tu nous as fait? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir. Vous vous rendez compte? Ils sortent de l'esclavage, où ils ont été malmenés, où ils ont crié à Dieu, Dieu, sors-moi de là. Et sors-nous de là, et puis cette souffrance, et Dieu vient et intervient et les sort de là, mais parce qu'il se trouve dans une situation de panique, tout d'un coup il dit, oh, c'était mieux avec les Égyptiens. Il vaut mieux mourir là. Vous savez, c'est un peu une tendance naturelle chez l'être humain, c'est que quand on se trouve devant une situation impossible, on aime bien revenir sur du terrain connu, même s'il n'est pas agréable, même si on a des mauvais souvenirs, mais au moins on le connaît, plutôt que d'aller, l'être humain n'aime pas aller dans l'inconnu, c'est partir à l'aventure, certains ils aiment bien le faire, mais on aime bien revenir sur un terrain connu. Mon père qui avait des chevaux, il disait, si jamais l'écurie prenait feu, on essayait de sortir les chevaux, mais eux, dans leur panique, eh bien, si on ne les tenait pas, ils retournaient dans l'écurie en feu. Mais parce que l'écurie représentait le refuge. Et même si c'était le danger. Et, En fait, l'être humain fait un peu ça aussi. Et si lorsque ça arrive, nous faisons un pas pour le Seigneur et nous voulons nous engager, nous approchons du Seigneur, et puis on se sent mieux tout au début, et puis tout d'un coup on rencontre des difficultés, et ben la première chose qui vient à l'esprit c'est je lâche tout, je retourne là où j'étais, c'est. Et on oublie de quoi on se plaignait quand on était là. Et on oublie l'amélioration qu'on a eue. On retourne facilement. C'est la tendance humaine, c'est la première chose qu'on fait avant de réfléchir. Et y a du confort dans ce qui est connu, hein, dans ce qui. On sait comment se comporter, on a dit, bah, je vivais quand même là, même si ce n'était pas désagréable, mais au moins je survivais. Et combien de situations, c'est un peu ce qu'on trouve, des situations malheureuses, par exemple, des épouses qui se trouvent dans des situations où elles sont malmenées, elles sont maltraitées, tout ça, mais et elles se plaignent, et c'est sûr, et elles ont raison, mais en même temps, partir, je vais où? Et alors, elles supportent, elles reviennent et elles supportent. Et c'est triste, mais c'est dans cette situation. Mais spirituellement, on peut arriver dans cette situation aussi, où on prend un pas avec le Seigneur et ça a l'air. Et puis après, on rencontre des difficultés et on revient. Et c'est ce que font ces enfants d'Israël. Et ils disent, mais on était mieux avec de souffrir en Égypte, mais au moins, là, on sait comment on va mourir. Mais par la foi, hein, lorsqu'on s'engage avec le Seigneur, par la foi, eh bien nous devons faire confiance à Dieu qui nous a libérés. Il a pris sur lui de nous libérer. Il a payé un tel prix pour nous libérer. Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Et s'il a fait cette démarche, c'est parce qu'il y croyait réellement. Hein, on ne fait pas ça. Hein, bon, c'est une chose. Oh, mais une petite pièce, si je perds, c'est pas grave. Hein, parfois, on tente des choses, et puis, bon, 5 euros, 2 euros, on dit, ben, c'est pas grave, si je gagne, tant mieux, si je gagne pas, ben, tant pis. Oui, mais quand c'est une question de mettre votre retraite en jeu, alors là, on joue moins bien. Hein. Il faut vraiment être sûr si là, je vais mettre ma retraite en jeu. Mais Dieu a mis son fils en jeu. Et il démontre par cela qu'il croit vraiment à ce qu'il propose à l'homme. Vraiment, c'est un salut garanti, hein, c'est sûr. Et là, eh bien, c'est ce peuple en panique crie à Dieu, mais bon, Dieu, quand on ne le voit pas, c'est difficile de croire qu'il va intervenir. Donc, il se tourne vers Moïse, c'est toi qui nous as mis dans cette situation. Et donc, bon, il faut trouver toujours un coupable. Hein. Et alors, Moïse dit, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Regardez le verset 14, qu'est-ce qu'il leur dit? L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, c'est lui qui interviendra, vous n'avez rien à faire, c'est lui qui s'occupe. Mais vous, calmez-vous. Ça me fait penser à ce verset dans Ésaïe 30, verset 15, où il dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la souffrance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il dit, dans la panique, on fait n'importe quoi. Et en général, on casse quelque chose. Et on dit des choses qu'on ne devrait pas dire, puis après, il faut les rétracter, il faut demander pardon. Hein, c'est combien de fois on dit ah chérie, qu'est-ce que tu fais là? Alors, après, on dit oh, excuse-moi, chérie, c'était pas toi, c'est vrai, non, excuse-moi, et puis on doit rattraper les choses. Vous savez, il dit tais-toi, dans la panique, tais-toi, fais confiance à Dieu. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Et au verset 15, vous regardez comment il commence. Moïse dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris ? Hein, Dieu a entendu, Dieu n'est pas si loin qu'il n'entend pas. Ils ont crié et ils ont dit n'importe quoi. Et Dieu dit, mais pourquoi ces cris ? Il n'y a aucune raison pour ces cris. Ces cris, et puis surtout la nature des cris. Hein. C'est une chose de crier à Dieu et dire... et c'est autre chose d'avoir ce cri d'accusateur. Et regardez verset 15, je lis la suite. Il dit, pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Il dit, celui que je les ai amenés jusque-là, je m'en occupe. Qu'il marche, je conduirai. Vous savez, eux, ils s'étaient mis dans une situation, eux dans leur panique, hein, et ils nous ressemblent beaucoup, mais ils étaient prêts à servir les Égyptiens. Ils disent, bon, c'est la souffrance, et c'était douleur, mais bon, on a pu supporter jusque-là, on pourra supporter encore un peu. Mais et leur solution, dans leur panique, eh bien, c'était servir les Égyptiens. Et servir les Égyptiens, ils avaient un peu oublié ce que ça voulait dire. Hein. Ils avaient si vite, ça faisait seulement quelques jours qu'ils étaient libres, et ils avaient déjà oublié ce de quoi ils avaient été libérés. Mais regardez un peu plus haut, là, au verset 5, hein, que... Regardez la conversation des Égyptiens et de Pharaon. Il dit, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard de ce peuple et dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ? Pour eux, ils pensent qu'une chose, ce peuple, c'est pour le service. Il dit, c'est le travail servile. Hein, et pour eux, de retourner là, ils n'avaient pas... Ils avaient dit, oh, les pauvres, s'ils sont partis, c'est certainement parce qu'ils étaient malheureux. Il faudrait qu'on les traite un peu mieux la prochaine fois. Vous pensez que ça ? Et si vous avez commencé avec Jésus-Christ, vous retournez dans le monde, et le monde ne va pas dire, bon, ils étaient chez Jésus-Christ, certainement qu'ils étaient malheureux. Il faudra qu'on les traite plus gentiment quand ils reviennent. Vous pensez ? Ce sera exactement pareil. Si je retourne dans le monde, je retrouve ce que j'ai laissé. Et parfois c'est pire parce que j'ai déjà goûté à autre chose. Et puis, retourner en Égypte, ou que nous retournions dans le monde, après avoir entendu le message de la vérité, eh bien, ce serait comme... c'est mépriser ce que Dieu a accompli jusque-là. Dieu était intervenu. Il avait travaillé. Pharaon n'était pas du tout disposé à les laisser partir. Même il avait augmenté leur travail. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils réfléchissent. Ça, c'est un astuce qui existe encore aujourd'hui. Hein. Et Dieu avait fait tout un travail pour les amener jusque-là. Et puis, comme ça, on est prêt à tout pardonner. C'est peut-être parce qu'eux n'avaient pas payé le prix. Hein. Vous savez, des fois, quand ça ne coûte pas, on s'en débarrasse facilement. C'est Dieu qui avait tout. Et peut-être c'est facile aussi, parce que c'est Dieu qui a payé tout le prix pour notre salut. Et nous, on n'avait rien à payer. C'est pour ça, peut-être facilement, on arrive à dire, oh, bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est lui qui a payé. Mais c'est à nous de nous comporter en responsable. De dire, mais il a payé cher pour que moi j'ai la vérité, la liberté, pour que moi j'ai le pardon de mes péchés, pour que moi j'ai cette espérance nouvelle. Il a payé cher. Faut que j'en tienne compte. Je ne dois pas mépriser ce qu'il a fait. Je ne dois pas banaliser ce qu'il a fait. Et lorsque nous retournons dans le monde, eh bien, nous annulons le témoignage qu'on a déjà rendu de cette libération, de cette joie. Hein, bah c'est comme si il n'y avait rien eu. Et en plus, nous renions l'œuvre que Dieu a fait jusque-là. Hein, c'est comme dire, ben oui, ben, bon, j'ai commencé, mais ben, finalement, c'était pas bon. Et... Alors que Dieu a tant fait. Et puis, troisièmement, non seulement est-ce qu'on retourne pour avoir le même traitement qu'on avait avant, au moins, non seulement est-ce qu'on méprise et on renie ce que Dieu a fait, l'œuvre qu'il a déjà faite et dont on a joui, mais en plus, il donne raison à Pharaon. Et Pharaon représente cette pensée qui dominait notre passé. On avait des idées idéaux, peut-être, mais on avait des idées, on avait des philosophies, on avait adopté, on avait lu, on avait essayé de faire un cocktail là, de choses, et on essayait, par ce cocktail-là, d'essayer de vivre une vie, et puis finalement, ça n'a pas si bien marché. Et puis je viens vers le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi de ça, je veux autre chose. Mais si j'abandonne le Seigneur, c'est je retourne et je donne raison à ce que j'avais avant, puisque j'y retourne. Et vous savez, quand on retourne dans le monde, il dit, ouais, oui, je reviens, bon, c'est... Il dit, écoute, on te pardonne tout, ça va, tu peux revenir. Vous êtes sorti de l'islam et vous commencez avec le christianisme et puis finalement vous changez d'avis, vous revenez. Ils vous reçoivent toujours. Vous savez, c'est étonnant dans un monde qui ne pardonne jamais, mais pour ça ils vous pardonnent. Je lisais sur l'Inquisition, l'époque de l'Inquisition ici en France et ces protestants qui étaient considérés comme hérétiques et qui partaient, mais après on mettait une grande pression pour qu'ils renoncent, renient leur foi et qu'ils reviennent dans l'Église. Et s'ils revenaient, on leur pardonnait tout. Mais sinon, c'était la condamnation. C'est étonnant comment on pardonne quand on revient dans le monde. Le monde nous pardonne. Alors qu'avant, ils ne nous pardonnaient rien du tout. Ils se rendaient pas compte, ces enfants d'Israël, ils se rendaient pas compte de ce qu'ils disaient quand ils parlaient de retourner en Égypte. Ils disaient, mais au moins là, on sait comment mourir. Et ils veulent retourner en Égypte alors que Dieu avait l'intention d'être glorifié par son œuvre en eux. Et lorsque nous suivons le Seigneur et lorsqu'il fait une transformation dans notre vie, eh bien, ça porte gloire à Dieu parce que les gens qui nous connaissent, ils disent, ouais, mais je sais que lui, il n'est pas capable de cela. Donc, ça doit être vraiment le Seigneur qui fait une œuvre chez lui. Et cette pensée nouvelle qui le domine, qui le conduit, eh bien, il doit y avoir quelque chose là. Et ça glorifie Dieu, ça glorifie l'Évangile. Et Dieu voudrait. Et donc, le Seigneur nous dit, il dit à ces gens, il dit, écoutez, ce sont vos premières réactions, mais taisez-vous, arrêtez. Pourquoi se taire? Eh bien, d'abord, se taire parce que ce peuple est en train de dire, on va retourner en Égypte, ben, c'est comme s'il n'y avait pas d'autre option. La seule option, c'est retourner en Égypte ou mourir dans le désert. Mais est-ce la réalité? Est-ce que c'est vraiment toutes les options? Il dit, vous êtes en train de vous perturber parce que vous vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Ce ne sont pas les seules options. Et des fois, on se crée la panique parce que tout d'un coup, on essaye de traiter avec ce qu'on a dans la tête, mais tout n'est pas là. Et parce qu'on ne comprend pas tout, mais c'est seulement ce qu'on sait, alors tout d'un coup, ça crée la panique. Qu'est-ce que je vais faire? Et ces pauvres hommes se sont comportés comme on se comporte souvent. Et dit, non, non, taisez-vous. Voyez s'il n'y a pas autre chose. Vous savez, parce que le problème, c'est que tant qu'on parle, on n'écoute pas. C'est profond, hein, ça. Tant que l'homme parle, il n'entend pas la parole de Dieu. Ça, là, c'est grave. Parce que tant qu'il est en train, on est dans la panique, on est en train de dire, Seigneur, Seigneur, pourquoi tu nous as amenés là? Regarde ce que tu fais, je ne comprends pas la situation. Il dit, arrête, calme-toi, laisse-moi parler. Tant que les hommes parlent, ils n'ont que les pensées, les paroles et les pensées des hommes pour les conduire. Et les options restent limitées, parce que c'est seulement le potentiel et les idées que les hommes ont. Il faut laisser parler Dieu, parce que lui, il a des options que les hommes n'ont pas. Toutes les religions, vous prenez n'importe quelle religion du monde, même celle qui est appelée christianisme, mais l'aspect religion, eh bien tous, ils ont exactement les mêmes problèmes. Et ils ont 80% de leurs gens qui ne pratiquent pas. Et puis ils ont toutes sortes de problèmes. Et ils ont tous les mêmes problèmes. Il n'y a aucune religion inventée par les hommes qui apporte quelque chose, une solution quelconque. Seulement on fait souffrir différemment. Et on fait subir différemment. Et puis on impose des conduites différentes. Mais ça ne change rien la situation. Les problèmes sont les mêmes sur n'importe quel continent de notre monde. Et même ceux qui n'ont pas de religion et qui disent croire en rien, ils ont les mêmes problèmes. Ce n'est pas une solution non plus. Essayons d'élever nos yeux plus haut et voir s'il n'y a pas des solutions qui viennent d'en haut. Et la Bible nous en propose. Les paroles des hommes ne nous donnent pas d'espérance. Parce qu'ils ne peuvent s'exprimer qu'à partir du contexte dans lequel ils sont issus. Ils ne peuvent pas parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Vous savez, si on écoutait les scientifiques, on a l'impression que, peut-être pas dans ma génération, mais dans les régions futures, ce monde, il va être un désert, et il va faire tellement chaud, et puis il n'y aura plus rien. Et puis, c'est la panique, vous les écoutez. Ceux qui se projettent dans un siècle ou deux siècles, ça va être terrible ici. Et alors, on essaye d'avoir des idées pour essayer comment diminuer le chauffage. Et oui, mais on l'a mis en marche. Les choses se sont emballées, puis après, maintenant, on se dit, il faudrait arrêter ça. Vous savez, peut-être qu'il faudrait regarder, voir quelqu'un qui a du pouvoir d'intervenir. Moi, je suis tout pour, je suis tout pour l'écologie, je suis tout pour cela. Parce que Dieu nous a confié une terre, et parce que c'est lui qui nous l'a confiée, on en prend soin. Et c'est parce que j'ai des enfants, des petits-enfants, et tout ça, on fait tout ce qu'on peut. Mais le truc, c'est qu'il y a eu tellement d'abus, ça c'est certain, il y a eu tellement d'abus, et puis après, même s'il y a quelques-uns qui font un effort quelque part, mais il y en a tellement d'autres qui ne font pas d'effort, vous savez, on travaille pour rien. Ce monde ne nous donne pas d'espérance. Et là, je prends seulement un domaine. Après, on a inventé les Nations Unies, on a inventé tout ça, mais est-ce qu'il y en a moins de guerres? Pas pour ça. On a inventé les républiques, mais bon, même les républiques, ça tourne pas rond. On a toutes sortes de républiques, des vrais et des faux, mais ça tourne pas rond quand même. Vous savez, c'est pas vers l'homme qu'il faut chercher de l'espérance. Vous savez, le discours le plus récent, là, c'est l'égalité de l'homme et de la femme, et puis la respecter, tout ça. Mais on en parle depuis longtemps, mais est-ce que c'est vrai? Je croirais qu'elles sont respectées, c'est quand une femme arrive sur le trottoir, elle voit un homme devant elle, elle n'est pas obligée de baisser les yeux. Là, je saurais que les choses sont en place. Mais vous savez, on le fait tellement naturellement, on trouve que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Ce monde n'a pas de solution. Parce qu'il y a un problème de cœur quelque part. Mais Dieu nous dit, arrêtez de parler, commencez à écouter. Et ne cherchez pas la réponse en soi-même. Il y a certains qui nous proposent, ils disent, écoute, cherche la réponse en toi. Oui, mais bon, c'est difficile de trouver des réponses dans une caisse vide. On a déjà essayé tout ce qu'il y avait à essayer. Si les hommes, l'homme pouvait chercher en lui-même et trouver des réponses, eh bien moi je pense que les philosophes grecs auraient dû le trouver avant la venue de Jésus-Christ. Et puis ils nous auraient aidés, parce qu'eux ils ont compris beaucoup de choses, ils ont écrit des choses qui sont encore respectables aujourd'hui, mais ils n'ont pas trouvé une solution pour rendre l'homme heureux et mettre de l'ordre dans notre monde. Il était quand même nécessaire que Christ vienne et qu'il meure et qu'il transforme nos cœurs, qu'il nous donne un cœur nouveau. C'est David qui dit « Seigneur, prends ce cœur à moi et donne-moi un cœur de chair. Enlève ce cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. Crée en moi un cœur pur. » Et c'est là la vraie solution. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est mort. Dans Psaume 46, verset 11, le psalmiste dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Il faut s'arrêter dans cette course terrible. On court, on court, on court et on part d'ennui à problème. Et il dit « Arrêtez. » Il dit « Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Peut-être, et si je le laissais agir dans ma vie? Au lieu de lui dire ce que je pense, plutôt que de l'écouter et savoir ce que lui pense, d'ouvrir la parole de Dieu et de lire et de comprendre. Et de voir ce qu'il a à me proposer. Il dit, se taire et marcher. Pourquoi marcher? Eh bien, marcher, il leur dit de marcher, marcher de l'avant. Pourquoi? Parce que déjà dans Exode chapitre 2, verset 24, il nous dit que Dieu s'était souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il avait promis, il leur avait dit, vos descendants seront en Égypte, mais après 400 ans, je vais les faire sortir et je les emmènerai dans la terre promise. Donc si Dieu se souvient de cette alliance, cet engagement, et puis il décide de faire quelque chose, eh bien alors, je le suis. Pourquoi marcher? Parce que dans Exode chapitre 3, verset 10, 7 à 10, Dieu dit à Moïse, il dit, moi, je descends, je vais prendre ce peuple et je vais le conduire dans le pays où coule le lait et le miel. C'est le projet de Dieu. Dieu veut le faire. Il a un projet. Je veux rentrer dans son projet. Marcher, pourquoi? Parce qu'il allait leur accorder une délivrance totale. Vous avez vu ce qu'on a lu là dans les versets 13? Il a dit « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. » Il dit donc « Marchez, ne les craignez pas. » Ils sont là, ils font peur, ce sont ces ombres, ce sont ces fantômes, mais ne les craignez pas. Et puis, il dit aussi, marchez, pourquoi? Parce que Dieu a l'intention d'être glorifié. On voit ça au verset 14, verset 4. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Parlant des enfants d'Israël, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Je vais me servir d'eux pour démontrer mes capacités. Et aussi, verset 17 et 18, il dit « Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens » pour qu'ils y entrent, après eux, parlant de la mer Rouge, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Dieu a l'intention d'être glorifié par cela. Et donc, il dit, écoutez, Si Dieu est décidé, vous n'avez rien à craindre, taisez-vous et marchez. Donc, ne pas retourner d'où on est issu, ça n'arrange rien du tout. On n'était pas bien déjà là. Continue dans cette marche avec le Seigneur. Tais-toi, parce que ce que tu te dis te perturbe. Commence à écouter ce que Dieu te dit. Ça te donnera le calme, la paix, la confiance et l'espérance. Et lorsque je lis l'Écriture, eh bien, je vois quel est son projet. Beaucoup parlent du livre de l'Apocalypse comme des choses terribles, et il y a des choses terribles. Mais pour le croyant, il y a des choses merveilleuses, là. Et il nous annonce ce qu'il va faire. Et alors, le peuple, finalement, décide d'écouter Moïse, donc écouter Dieu, d'obéir. Et quel sera le résultat de cette obéissance? Qu'est-ce qui va arriver parce qu'ils vont écouter? Eh bien, la première chose, c'est que ce peuple va être témoin d'un événement qui sera un témoignage et une référence pour le reste de leur vie. Pendant des années, chaque fois ils diront « Mais notre Dieu nous a fait traverser la mer Rouge par une main puissante. » C'est une option qu'on n'avait pas imaginée, on ne savait pas, mais lui avait prévu cela. Le passage de la mer Rouge à sec sera une référence pour les capacités de Dieu de prendre soin de son peuple. Et je pourrais vous donner toute une liste de références dans l'Ancien Testament, jusqu'à dans Acte 7 et jusqu'à Hébreux 11, où il dit, c'est ce passage de la mer Rouge, des choses extraordinaires. Des gens aujourd'hui nous disent, c'est amusant pour les enfants de leur raconter des histoires comme ça, mais c'est pas possible. Et une fois, il y avait un gars qui se moquait de la Bible et disait, la mer Rouge, on en fait tout un cas. Il dit, il y avait 10 cm d'eau. Et donc, c'était pas grand-chose, hein, il suffit qu'il y ait un petit vent et ça peut souffler l'eau, puis après, puis passer. Et alors, le gars qui écoutait, il disait, mais alors ça, c'est encore plus extraordinaire. Il dit, comment ça? Ben, 10 cm d'eau? Et l'armée des Égyptiens a pu se noyer dans 10 cm d'eau. Alors, c'est formidable. Vous savez, c'était pas plus facile pour les enfants d'Israël de croire que Dieu pouvait ouvrir une mer. Pas plus que c'était facile pour Marie de croire qu'elle pourrait avoir un enfant tout en restant vierge. C'est pas parce que nous, on est plus intelligents qu'eux. Déjà, à leur époque, c'était impossible. C'était pas facile à croire. Donc ne croyons pas que c'est bon, eux, c'était un peu primitif, ils n'avaient pas les connaissances. Il n'y aura pas besoin des connaissances qu'on a aujourd'hui. Depuis la création du monde et depuis qu'il y a les humains, on sait qu'une femme vierge ne peut pas avoir d'enfant. C'est un miracle, c'est tout. Un miracle, c'est quelque chose que moi, dans ma petite tête, j'arrive pas à comprendre. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, ça arrive tout le temps. Hein, on parle même dans le langage courant, on parle de miraculé. Hein, il y a toutes sortes de situations de miraculé. Ça veut dire que, avec les connaissances que nous avons, on ne peut pas l'expliquer. Mais, avec nos yeux, on constate que c'est arrivé. C'est tout. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Parce que ça ne rentre pas dans ma tête, ça n'existe pas. Bon, alors là, le monde, il est vraiment petit. Hein, surtout si vous le mettez à la mienne. Hein. Entre les deux oreilles, il n'y a pas grande distance, il n'y a pas grand-chose. Mais... le monde est bien plus vaste. Et Dieu va faire une délivrance. Il va ouvrir la mer et ils vont pouvoir traverser. Vous savez ce que j'ai trouvé extraordinaire? C'est que Dieu va amener ce peuple à croire. Regardez le verset 31, le dernier verset de ce chapitre. Parce que c'est là où ça aboutit. Et regardez, c'est extraordinaire ce que ça dit. Au verset 31, il dit « L'Éternel, Israël vit la main puissante de l'Éternel, avait dirigé contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel, et en Moïse son serviteur. » Après, voilà, Dieu s'était bien monté. C'était arrivé au point, ils ont vu ça, ils ont dit, ça alors, Dieu est quand même, hein, mais les dieux égyptiens étaient, paraissaient puissants, mais là, alors là, c'est, même Pharaon qui incarne les dieux égyptiens, eh bien lui n'a pas pu, il a été vaincu. Et ça les a amenés au point de dire, mais Dieu, même si on ne le voit pas, même s'il n'a pas de représentation, il est vrai. Bon, chapitre 3, ils avaient cru que Moïse était réellement envoyé. Il a fait 2-3 petits miracles et ils ont cru, ben, Dieu a réellement envoyé Moïse. Donc ils l'ont suivi. Mais bon, après, ils ont douté plusieurs fois. Mais là, dit, ils croient. Parce qu'ils ont vu une chose extraordinaire. Vous savez, c'est extraordinaire comment... les choses se passent parce que lorsque nous lisons et je vois le temps, donc je vais le raconter, puis après vous pourrez le lire. Mais ce que je vois dans ce chapitre, c'est que là, les gens disent à Pharaon, il dit, Pharaon, ce peuple, tu l'as laissé partir, mais alors qui va faire le travail? Et puis lui, il se renseigne et puis il voit le peuple qui descend dans une direction impossible, c'est une impasse. Après, il les voit faire un demi-tour et remonter un petit peu. Et alors, il dit, il le dit lui-même, il dit au verset 3. Tout d'un coup, je suis... verset 3, il dit... ils ont l'air d'être perdus, égarés. Voilà, verset 3, oui. Pharaon dira, les enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Il dit, mais ils disent qu'ils ont suivi leur Dieu, ils sont partis comme ça, et puis ils vont dans nulle part, ils vont droit dans un mur, c'est une impasse, il n'y a pas moyen de sortir de là, il y a de l'eau dans cette direction-là. Ils sont perdus. Et alors lui, il reprend confiance, il dit, ah oh, oui, ben ça, là c'est l'occasion. Bon, c'est vrai qu'on en a pris des coups, mais là c'est bon, j'y arrive. Mais en réalité, il se fait conduire dans un piège. Et le piège, c'est la mer Rouge. Parce que les enfants d'Israël vont traverser, et lui, dans sa assurance, eh ben, il va rentrer derrière aussi, sans se demander qui a ouvert la mer. Il rentre là-dedans, et puis tout d'un coup, arrivé là, eh bien, alors, ça ne se passe pas bien pour lui. Les autres traversent sur la terre sèche, et lui, ça ne va plus. Et lorsque vous lisez dans le psaume 77, il décrit, oh, c'était l'orage, la tempête, c'était, il y a toutes sortes, tout est allé de travers pour lui dans cette mer Rouge. Et finalement, c'est devenu un marécage pour lui, duquel il n'a pas pu s'extraire, et puis après la mer est revenue, et c'était la fin pour lui. Mais c'est, vous savez... mais Dieu, qui parfois a l'air de ne pas savoir ce qu'il fait. Et si vous y avez pensé, si vous avez eu cette pensée, vous n'êtes pas les premiers et vous n'êtes pas les derniers. Vous allez dire, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Où il est? Écoutez, ça peut paraître comme cela. Et puis parfois Satan, il se dit, ah oh, on a l'impression qu'il regarde de l'autre côté, là il ne fait pas attention, je vais essayer. Mais finalement, attention, parce que Dieu sait... et il contrôle tout. Et finalement, cette confiance que Pharaon a eue, et il s'est engagé dans la mer Rouge, finalement, ça a été le piège dans lequel il a été mené. Il ne pouvait pas se rattraper. Il nous dit même, dans ce chapitre 14 et au verset 19, il nous dit, « L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp des enfants d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps ne s'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. » L'un, il a des chars, il a des chevaux, il a tout cela, mais il fait tellement loin de son côté qu'il n'arrive pas à rattraper. Et puis de l'autre côté, eh ben, avec tous leurs moutons, les petits-enfants, les petits... Vous avez déjà fait des promenades en famille. Ça ne bouge pas vite, vous savez. Ben, il n'arrive pas à les rattraper. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'était plein jour, de l'autre côté, c'était le noir total. Et l'Éternel est entre les deux, c'est tout. Il est protégé. Sa présence protégée faisait tampon là, et il n'y avait pas moyen de les rattraper jusqu'à que tout ce peuple, vous imaginez 2 millions de personnes qui traversent, ils traversent n'importe où, ça prend du temps. Même si c'était la plaine, ça prendrait du temps. Et puis Pharaon, il arrive derrière, puis il dit, bon, je vais les rattraper. Il aurait dû commencer à se douter et dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Non, mais dans sa confiance, il pénètre et c'est sa fin. Et le résultat, le peuple arrive de l'autre côté et puis voit la mer qui se referme. Et puis, ils disent, oh, enfin, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait les 10 plaies et puis il fallait ça pour que le peuple dise, eh bien l'Éternel, il est extraordinaire. Mais vous savez, nous aussi, en tant que chrétiens, parfois on doute, on n'est pas très sûr, tout ça. Mais un jour, nous nous tiendrons de l'autre côté, là-bas, dans la présence de Dieu. Et en regardant en arrière, on dit, mais notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Notre Dieu est un Dieu... Je vous fais remarquer, entre parenthèses, que ce peuple, alors qu'il a vu toutes ces plaies, c'était des miracles extraordinaires, parce que même les magiciens d'Égypte n'arrivaient pas à les reproduire. Et eux-mêmes ont dit, c'est le doigt de Dieu. Et tout cela, mais ce n'est pas pour cela que les enfants d'Israël, eh bien, ils vont avoir la foi. Pourquoi? Parce que les miracles ne produisent pas la foi. Et cette chose se vérifiera pendant la vie de Christ. Il fera tellement de miracles de tous les sens, mais ce n'est pas pour cela que les gens sont croyants et le suivront. Parce que les miracles, donc, ne cherchez pas à avoir des miracles, parce que ça ne fera rien pour votre foi. Vous serez juste pendant un moment, vous dites « Waouh !» Et puis après, vous continuez votre route. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Il faut lire la parole de Dieu. Et c'est de là que vient la foi. Si vous attendez à voir quelque chose d'extraordinaire, mais ça ne produira pas la foi. Ça produira l'étonnement, l'émerveillement, mais pas la foi. Et le chapitre 15, ben, il suit. Et après tout cela, eh bien, nous disent les enfants d'Israël, avec Moïse et les enfants d'Israël, chantèrent un cantique à l'Éternel, un cantique nouveau. Et si vous lisez le cantique, eh ben, ce n'est pas un cantique qu'ils ont chanté en Égypte. Hein. Ça ne leur venait pas à l'esprit de le chanter en Égypte. Mais là, parce qu'ils ont été délivrés, il y a un chant nouveau. Vous savez que lorsque les enfants de Dieu, lorsque nous arriverons dans la présence de Dieu, nous aurons aussi un chant nouveau. Un chant qu'on ne peut pas composer aujourd'hui, parce que notre compréhension est limitée. Mais il nous dit dans l'Apocalypse, et je vais terminer avec cela, l'Apocalypse chapitre 5. Je vais lire le chapitre, Apocalypse chapitre 5, et c'est ce qui nous attend. Et c'est un peu l'expérience... de la délivrance totale, parce que là, pour les enfants d'Israël, c'était la délivrance totale de celui qui les avait asservis. Et donc, Apocalypse chapitre 5, et je lis, il nous dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, parlant de Dieu, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. » Donc ce livre, ce rouleau, eh bien, représentait cette alliance qui garantissait le salut des hommes. Et verset 3, « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. » Alors Jean, il dit, « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de regarder les sceaux. » Parce que si ce livre n'était pas ouvert, eh bien, il n'y avait pas de salut pour personne. Et il a dit, il n'y avait personne, aucun saint, aucun prophète, aucun, il n'y a personne qui pouvait ouvrir ce livre scellé par Dieu. Et verset 5, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux, parlant de Jésus-Christ. Il a dit, oui, il y en a un. Il y en a un qui peut l'ouvrir. Et alors au verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 être vivant, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. L'image de Christ sur la croix. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades, ou dites milliards de milliards, hein, et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Un chant nouveau. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui ? Il dit que tu regardes autour de toi avec tes yeux, avec ton intelligence, tu paniques. Mais il dit, tais-toi, marche. J'ai un plan, je le réaliserai, fais-moi confiance. Et un jour, tu seras en position de pouvoir chanter un cantique nouveau qui fera référence à la plus grande des œuvres de Dieu. La mort de Christ sur la croix, pour le salut de tout quiconque croit. Aujourd'hui encore, il est possible de croire. Aujourd'hui encore, il est possible de recevoir ce pardon gratuit et de recevoir la vie éternelle. Aujourd'hui, il est possible de regarder la croix, dit Seigneur, je sais d'où je sors, mais je te fais confiance pour là où je vais. Et je veux marcher avec toi. Et un jour, je me tiendrai sur l'autre berge et je chanterai ce cantique nouveau avec les rachetés. Nous allons prendre quelques moments de silence. Déjà, peut-être vous avez des choses à dire à Dieu, des questions à lui poser, mais des questions pas pour d'accusation, mais des questions parce que vous recherchez. Et dire, Dieu, je suis prêt à me taire si tu es prêt à me conduire. Et après, je prierai.